Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 36, le chapitre 392 de Mission Encre Noire qui commence. Céline Wachowski avait toute sa vie su marcher sur la fine ligne entre l'effet de mode et la pérennité, n'avait pas été pervertie par la richesse et le succès. Elle avait su trouver dans chacune des formes dessinées la part éternelle du beau. On visualisait de grands immeubles modernes sous lesquels avait toujours œuvré une conscience pure, une sincère fièvre, un désir ardent que les humains et les sociétés soient dotés de lieux pénétrants et fabuleux. À bientôt 70 ans, sa période dorée avait semblé se prolonger encore. On se demandait si les faveurs du ciel arrêteraient un jour de lui tomber sur la tête. C'était avant le coup fatal. Céline Wachowski. Le nom résonnait maintenant dans la vallée déserte où les cataclysmes s'étaient produits. Les commandes ralentirent aux ateliers CW. L'affaire fit pendant plusieurs semaines la une. Céline se mit à perdre des cheveux. Elle en trouvait paniquée par grosses mottes dans le drain de la douche. Le stress la rongeait. Le monde entier s'était ligué contre elle. Plus personne n'osait lui parler, la défendre. Elle consulta pour des maux de ventre, une perte d'appétit, un torticolis, des migraines, des tremblements, avant que son médecin ne lui suggère que la source de ses malaises puisse être l'anxiété et, peut-être, la cigarette qui finirait par la tuer. Elle essaya d'arrêter, y parvint, puis se remit à fumer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Que notre joie demeure » par Kevin Lambert, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Il peut s'avérer délicat parfois de se rendre dans des dîners d'anniversaire. Céline Wachowski y songe, car après tout, d'anciennes rivalités pourraient ressurgir. Lorsque l'on est une des femmes les plus influentes du monde, ce sont des choses à considérer. Surtout que le complexe montréalais WeBuy est sur le point d'être inauguré. Pur produit des ateliers CW, situé au 305 rue Bellechasse, le projet suscite bon nombre de critiques au Québec. Cette femme de 70 ans, qui anime une série culte sur Netflix, dont le portrait est croqué par Joanne Didion dans le Harper's Bazaar, est l'icône d'un monde bourgeois qui évolue en vase clos. Loin de vous, loin de moi, loin de la rue où la menace gronde. Cette classe dominante montréalaise, Kevin Lambert l'a saisi ici, dans toute sa démesure et sa décadence. Sauriez-vous dire pour autant de quoi y elle parle? Comment envisage-t-il y elle la vie? De quoi sont faites leurs angoisses? L'écrivain dissèque les pensées de notre jet-set au scalpel, tout en faisant jaillir l'éternelle histoire d'un capitalisme avide et destructeur. La bonne nouvelle? La lame de l'auteur est parfaitement aiguisée et son fil est empoisonné. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Kevin Lambert. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Eric.
Vous avez grandi au Saguenay et vivez à Montréal. Vos deux premiers romans ont connu un succès éclatant ici et à l'étranger. Tu aimeras ce que tu as tué a été finaliste du prix Médicis, prix découverte du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Querelle de Robert Val, qui a reçu le prix SAD, sélection des prix Wepler et Médicis. Les deux ouvrages sont parus chez Héliotrope. « Que ma joie demeure » est un verset de la Bible, tout autant que les mots de la citation de Marie-Claire Blais dans Soif. D'ailleurs, ce sont les derniers mots de son roman, à laquelle répond celle de Sir John A. Macdonald, le premier Premier ministre du Canada, qui déclare « Nous devons protéger les riches ». C'est tout un contraste saisissant qui nous accueille ici. Est-ce que tu offres l'un des fleurons de notre littérature ici au Québec aux paroles couperets du capitalisme triomphant?
Oui, ben la citation de McDonald's, c'est il faut toujours protéger l'intérêt des minorités et les riches seront toujours moins nombreux que les pauvres. Donc c'est une sorte d'argument un peu pervers sur la par rapport à la... Donc j'utilise la... de la minorité, alors que John McDonald était atroce envers toutes les minorités possibles et impossibles au Canada en son temps. Mais donc, il utilise cette rhétorique-là pour défendre les intérêts des riches, parce que c'est vrai que les riches, mais là-dessus, il a raison, les riches seront toujours moins nombreux que les pauvres, mais c'est une minorité qui bénéficie d'un privilège complètement délirant, je trouve, aujourd'hui, pas seulement au Canada, là, mais dans le monde. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir aussi comment un petit nombre de personnes prennent des décisions qui influencent beaucoup la destinée des villes et les destins humains aussi, avec l'angle de la construction puis de l'architecture.
Mmh. Que ma joie demeure, de quelle joie s'agit-il dans ce titre?
Ben, c'est une joie qui ressemble à un privilège, c'est une joie qui est, donc quand ça apparaît dans le roman, on est dans une soirée, comme tu le disais, avec toute la faune d'affaires et politiciennes de Montréal. Puis c'est pour un anniversaire, puis à un moment donné, pendant la soirée, les gens se mettent à chanter la chanson que notre joie demeure. Donc pour moi, c'était un peu pour montrer, pour trouver une sorte d'image qui saisissait un peu comment en fait c'est la fonction principale de cette caste-là, de cette population-là, que de conserver ses privilèges.
À la façon de Marie-Claire Blais ou d'un Antonio Lobo Antunes, vous nous branchez sans nous prévenir finalement sur le flux continu de votre écriture. Et si je cite Antonio Lobo Antunes qui dit « Ce que je cherche, c'est mettre dans mes livres tous les âges, tous les temps, tous les sentiments, toute la vie en somme, dans ces lignes ». Est-ce que ce style d'écriture vous permet d'ouvrir à vous aussi toutes les portes?
Je pense que ça permet d'aller sous les masques, en tout cas. Tu sais, donc le ce qui m'intéresse, c'est beaucoup ça. Quand on rencontre le personnage principal, au début, on la rencontre plus avec sa persona sociale. Donc, on voit un peu comment elle est perçue aussi par les autres. On apprend sa réputation dans le monde, mais l'espèce de monologue intérieur ou de discours intérieur, comme tu disais. Ça permet d'aller en dessous de ça, au-delà de ça, puis d'aller voir comment les personnages vivent eux-mêmes de l'intérieur les aventures qu'ils vont vivre dans le roman. Puis ce qui m'intéresse aussi, c'est la complexité en fait de cette vie intérieure-là, parce que c'est pas juste de montrer que sous les façades il y a des émotions, ou il y a des réflexions, ou il y a des désirs inavoués, inavouables, mais c'est de montrer que il y a un moment où j'écris que donc Céline est architecte, comme tu l'as dit, puis il y a un moment où j'écris que sa construction la plus sophistiquée, puis sa plus grande construction, finalement, c'est un peu sa vie intérieure. Mm-hmm. C'est tous les discours qu'elle se raconte à elle-même, c'est la manière dont elle se raconte ses décisions, dont elle se justifie ses décisions, dont elle se présente à elle-même sa vie, les injustices qu'elle a vécues. Puis je pense que là, je m'intéresse à Céline surtout dans ce moment-là, puis à d'autres personnages aussi. Mais je pense que tout le monde est comme elle dans un sens. On a tous une sorte de cathédrale intérieure où on se raconte nos humiliations, nos traumatismes, nos espoirs, déçus, nos fantasmes, nos désirs secrets. Puis je pense que la forme, la phrase du monologue intérieur permettait un peu une sorte de promenade dans cette cathédrale-là.
Alors, on s'entend ici, tu endosses quand même l'habit d'une certaine haute bourgeoisie montréalaise. Pourquoi avoir choisi ce point de vue? On t'attendait peut-être quelque part d'autre, vu, je dirais, le point de vue que tu avais pris dans tes deux premiers romans.
Ouais, ben justement, je trouvais que après mes deux romans qui s'intéressaient plus aux marginaux, aux exclus, là, c'était intéressant d'aller voir l'autre, le sommet de la pyramide sociale, l'autre extrême de la pyramide sociale. Puis je trouve que c'est des gens en fait qu'on voit pas si souvent en fiction, ou du moins quand on les voit par exemple au cinéma hollywoodien, dans la littérature québécoise, ils sont assez rares là, ces personnages-là. Mais quand on les voit au cinéma hollywoodien, je pense que la fortune n'est jamais mise en question. Donc on voit, je sais pas là, on écoute une série, puis là, le personnage principal vit dans un grand appartement, dans une tour à New York. Mais il n'y a jamais aucune question sur comment il a pu financer ça. Ou tu sais, je me souviens les films d'enfance qu'on écoutait, c'est dans Maman j'ai raté l'avion, le petit gars il vit dans un manoir, et on sait jamais comment ses parents à qui ont volé leur argent pour avoir une autre grosse demeure là, puis ou bien se louer l'hôtel Plaza pendant tout le temps des fêtes. Fait que ça m'intéressait quand même de représenter cette place là qui est souvent invisible, puis qui, tu sais, cette invisibilité-là, il y a une raison pour ça, c'est que les gens, les actionnaires, les hauts fonctionnaires, les gens qui sont très riches, qui font de l'argent dans les affaires, ils n'ont pas vraiment avantage à être visibles, ils n'ont pas avantage à être exposés médiatiquement, parce que ben, ce qu'ils font, ça pourrait susciter des critiques, ça pourrait susciter des remises en question.
Alors j'ai noté les premières lignes, les premières pages de ton roman sont à couper le souffle. C'est une introduction digne d'une impératrice. Il y a une progression à couper le souffle qui s'ouvre sur quasiment un plan séquence qui est porté par un courant d'air qui se dérobe aux pieds de Céline. C'est pour ça que c'est quasiment digne d'une impératrice. Alors qui est Céline Wachowski? C'est pas simplement une architecte, elle est beaucoup plus que ça, surtout pour avoir une introduction de cette nature-là.
Oui, exact. Ben, elle est surtout connue parce qu'elle était architecte, donc elle a travaillé un peu à Montréal dans le secteur privé, donc elle a fait des maisons, surtout à Montréal. Puis elle a eu une grande carrière internationale, elle est au sommet de sa carrière. En architecture, les gens atteignent l'apex de leur carrière à cet âge-là, à peu près là, à la fin de la soixantaine, ou pendant la soixantaine. Donc, elle a construit partout dans le monde. C'est une sorte de genre nouvelle québécoise, on pourrait dire, là, donc de l'architecture plutôt à vocation culturelle, des musées, des salles de spectacle. Mais elle a fait sa fortune, donc même si elle dirige une grosse boîte, c'est pas ça qui rend quelqu'un milliardaire. Elle a fait sa fortune en investissant, en participant à des applications en fait. Donc elle a cofondé une application qui s'appelle Host, qui est une sorte de Airbnb, mais destinée aux gens très riches. Donc pour un peu rentabiliser les multiples propriétés que ces gens-là ont. Donc c'est comme une sorte de système de location qui est destiné à d'autres riches qui iraient voyager dans ces villes-là. Puis aussi, c'est ça, c'est devenu une sorte d'icône de la culture populaire, en fait, à cause d'une série de choses qu'elle a faites, là, notamment une télésérie sur Netflix. C'est ça, donc elle a aussi des contacts très forts dans le milieu hollywoodien, parce qu'elle vit à Los Angeles en une bonne partie du temps. C'est un personnage qui est à la fois une œuvre, mais qui est aussi une sorte d'icône pop.
Ouais. S'agissant justement de célébrité, dès le début du roman, tu nous introduis à une fête d'anniversaire. Et là, effectivement, on va découvrir plusieurs personnages que l'on va suivre tout au long du roman. Ils font tous partie d'une foule d'invités bardés de privilèges. Et cette partie comme une sorte de mise en contexte, voire de mise à distance, car la plupart des personnages, finalement, se définissent par ce qu'ils portent, c'est cher, par qui ils connaissent et tutoient, Phyllis Lambert, Diane Dufresne, Luc Plamondon, la chirurgie esthétique est sur toutes les lèvres et on porte des vêtements de marque griffés de création québécoise. Bien évidemment, on se jauge, on se juge. Toute cette population, finalement, se définit-elle par leur attachement à des signes d'appartenance?
Ouais, ben c'est la même chose en fait, c'est ça, les biens matériels, c'est un système de communication, c'est un système sémiotique dans ces milieux-là où tu affiches une certaine une culture, un savoir-faire par la manière dont tu t'habilles, par la manière dont tu arrives à parler. Ça ressemble un peu à finalement au salon que Proust nous raconte de la fin du 19e siècle ou Balzac, là, tu sais, donc, parce que comme c'est des milieux où c'est difficile d'entrer, il y a une forme de gatekeeping, là, qu'on pourrait dire, il y a une série de codes, donc c'est pas les seuls milieux qui fonctionnent comme ça, mais ces milieux-là du pouvoir, entre autres, fonctionnent comme ça. Il y a une série de codes qui sert à montrer qui sont les nouveaux, qui sont les entrants, qui sont les gens qui ont le plus de réputation. Parce qu'une fois aussi que tu possèdes ces codes-là, il faut que tu te mettes à t'en foutre un peu, puis faut que tu montres que tu as une sorte de laisser-aller pour garder ton statut, si on veut. Donc, ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse en général dans la vie.
Ouais, effectivement, dans ce roman, une influence flagrante de tes lectures, Marcel Proust, qui lui aussi faisait salon avec la haute bourgeoisie française, décadente et vieillotte. Y a-t-il un peu de Madame Verdurin ou de la princesse de Parme, la snob et arrogante dans Céline?
Elle peut avoir un côté un peu snob, mais le drame des bourgeoises puis des aristocrates chez Proust, des bourgeois, c'est qu'ils font rien, en fait. C'est ça l'affaire, tu sais, c'est que ils ont des fortunes, c'est des rentiers, c'est des héritiers, puis ils s'ennuient gravement. Puis, moi, je trouve que c'est ça qu'on finit par comprendre, en fait, dans la recherche, c'est que Madame Verdurin, puis Madame Guermande, puis c'est des gens qui s'ennuient vraiment, qui s'emmerdent, en fait. Céline, elle s'ennuie pas. C'est quelqu'un de vraiment occupé quand même, puis c'est quelqu'un qui a une œuvre aussi, tu sais, je voulais vraiment la conduire aussi comme une artiste, parce que je pense que j'aurais pas réussi à écrire sur des gens riches si ça avait été, je sais pas, là, Elon Musk ou des freelancers de la Silicon Valley, ça m'aurait pas touché vraiment, je pense. Mm-hmm. Les personnages m'auraient un peu trop gossé ou je me serais pas attaché à eux. Puis donc Céline, pour moi, c'est aussi une manière de la rendre attachante, de montrer que c'est quelqu'un qui a vraiment un projet. Donc on peut être d'accord ou non avec son projet, mais elle est quand même portée par un désir de création puis de d'engagement. Puis son but, c'est d'améliorer le monde. Là, puis elle pense qu'elle le fait.
Alors pourquoi avoir choisi justement le milieu de l'architecture pour camper votre roman?
Parce que c'est le milieu qui, à mon sens, représentait le mieux ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que les architectes, c'est des artistes, mais c'est des artistes qui, pour réaliser leurs projets, ont besoin de beaucoup d'argent, ont besoin de contacts, ont besoin idéalement des faveurs de la classe politique, parce que souvent, c'est aussi la classe politique qui décide de quels projets vont avoir lieu ou non. Donc c'est un art, mais qui est vraiment compromis en fait à toutes sortes d'autres sphères d'influence.
L'architecture comme art, c'est un langage, c'est une technique, mais c'est aussi une vision de voir le monde et pourquoi pas de le soumettre. Est-ce que l'architecture n'est-elle pas aussi le langage de l'exclusion, et notamment dans ton livre?
Ben il peut le devenir, puis souvent il l'est. Tu sais, comme à Montréal, quand on se promène dans les quartiers qui en cours de gentrification, on voit comment l'architecture est aussi un outil de distinction. Tu sais, tu vois dans des quartiers où c'est plus des plex disons, construits au début du 20e siècle, ben là hop, il y a un plex qui a été mis à terre puis qui a été remplacé par une belle maison d'architecte, parce que sûrement que c'est les gens qui vivent là, c'est des gens qui sont pas issus de la classe sociale qui historiquement vivaient dans ce quartier-là. Fait que c'est l'architecture dans ces cas-là devient vraiment une manière de se distinguer, mais c'est pas la seule chose que fait l'architecture. T'sais, l'architecture, c'est aussi comment on construit des écoles, comment on construit des HLM, comment on construit des appartements. Puis moi, j'ai des ambivalences, j'ai une dimension critique par rapport à l'architecture, mais c'est aussi quelque chose qui me fascine et que je trouve extraordinaire, tu sais, réfléchir comment rendre les espaces plus égalitaires, comment faire aussi des espaces. Parce que moi, je suis convaincu là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec les architectes, là, mais je suis convaincu que les lieux dans lesquels on vit, ça oriente, ça commande les possibilités, les manières de penser, qui va se croiser où, est-ce qu'on va avoir des endroits où on peut s'arrêter pour discuter, où on peut s'asseoir, où des itinéraires vont pouvoir rester pour la nuit, par exemple. Puis c'est toutes des questions très très politiques, très sociales. Puis les architectes se posent ces questions-là. C'est fait que c'est pas juste des gens qui sont vendus, là, c'est pas ça. Certains le sont, puis en partie, mais c'est vraiment pas juste ça. C'est aussi des gens qui posent la question vraiment importante. Puis avec les urbanistes, c'est pas les seuls, là, mais de comment on construit, comment on aménage les choses idéalement pour rendre le monde le plus égal, puis le plus intéressant, le plus beau possible.
Alors, les ateliers CW occupent les locaux d'une ancienne manufacture de manteaux de la petite patrie, le fameux 305 ouais. rue Bellechasse. Bah, je dis le fameux parce que le 305 rue Bellechasse existe vraiment et la controverse existe aussi puisque le bâtiment abritait des ateliers d'artistes qui ont été obligés de migrer de l'autre côté de la voie ferrée dû à l'embourgeoisement du quartier, une victime de plus de la spéculation immobilière. Pourquoi justement avoir choisi ce 305? C'est tout un symbole pour toi aussi?
Oui, c'est tout à fait un symbole. Pour moi, c'était... D'abord, la vraie raison, c'était au coin de ma rue. Quand okay. je cherchais où établir les bureaux de Céline, tu sais, je passais en face tous les jours, puis je me suis dit, ah, ben, tu sais, une architecte aurait très bien pu racheter ce bloc-là dans les années 90 pour le rénover puis en faire... l'améliorer, en faire une sorte de... Ben, c'est quartier généraux, en fait. Mais aussi, en plus, l'histoire du lieu est intéressante. Comme tu l'as dit, c'était une fabrique. Donc, il y a une histoire ouvrière derrière ça. C'était une fabrique de vêtements. Puis avant ça, même, ça a été une fabrique de macaroni, de pâtes, les pâtes de Catelli. Qui, c'est ça, après ça, toute l'histoire, comme que tu racontes, la gentrification. Pour moi, c'est un bâtiment, en fait, qui... En capsule, c'est quoi la gentrification en un édifice, tu sais? C'est ça, la gentrification. C'est des lieux qui sont d'abord ouvriers, puis ensuite, qui sont désaffectés parce que, bon, historiquement, les usines ont été, la plupart du temps, délocalisées dans des pays où la main-d'œuvre était, où on pouvait l'exploiter à moindre coût, disons. Puis, après ça, donc, c'est devenu, après ça, des ateliers d'artistes parce qu'il y avait des grandes usines vides, libres. Puis, après ça, quand les artistes ont contribué à gentrifier le quartier et à lui donner une sorte à changer son image, à lui donner une image plus bobo. Ben là, cet édifice-là, comme bien d'autres, a été racheté par une multinationale, par des spéculateurs qui vont en faire, je sais pas, des condos ou des bureaux d'avocats. C'est fait que là, on passe à la prochaine étape si on veut. Donc c'est ça, c'est intéressant parce que c'est juste un bâtiment, mais qui nous montre en fait un processus qui le dépasse largement.
En lisant le roman, je me suis rappelé une citation de Jean-Luc Godard qui disait « La règle, c'est la culture. L'exception, c'est l'art. L'art se vit et devient l'art de vivre. Il est de la règle de vouloir la mort de l'exception, donc d'organiser la mort de l'art de vivre. » Est-ce que tu serais... est-ce que tu verrais, je dirais, une correspondance avec ton roman? Est-ce que effectivement la gentrification ou encore une vision de l'art peut tuer l'art de vivre?
Ben, c'est intéressant parce que moi, il y a une sorte de continuum entre l'art et l'art de vivre, puis que l'art parfois peut devenir une forme d'art de vivre. Donc même dans l'art, il y a des processus de gentrification qui existent dans les pratiques artistiques elles-mêmes. Puis on le voit très bien, là, si on va dans les petits commerces avec des belles tablettes blanches prêtes à être mises sur Instagram de l'avenue Beaubien, ben tu sais, on voit que, je sais pas, là, il y a des illustrateurs ou des illustratrices qui sont très intéressantes, par exemple, ben, qui vont faire, je sais pas, aussi des tasses à 30$ pour les vendre dans ces lieux-là. Donc, il y a vraiment il y a un chemin que les artistes peuvent suivre qui les amène, disons, de l'œuvre d'art au produit. Tu sais, puis je pense que ça, ben c'est sûr que moi, j'ai pas envie de suivre ce chemin-là, parce que je pense que ça m'intéresse aussi comme repoussoir un peu. Mais cette tension-là, on l'a aussi dans l'architecture, en fait. Tu sais, c'est que c'est un art qui est déjà un produit, tu sais, qui c'est l'art le plus fonctionnaliste parce que ton art doit aussi avoir des salles de bain où la tuyauterie fonctionne puis où l'électricité se rend. Donc ouais, c'est intéressant ce passage-là parce que ça désacralise un peu l'idée d'œuvre d'art. Ça montre que n'importe quelle œuvre d'art, tu sais, je veux dire, Godard, ses films peuvent très bien devenir des t-shirts qui vont être vendus par tel designer par après. Ça montre que l'œuvre d'art n'est pas un espace complètement sacré puis complètement à l'abri aussi des logiques capitaliste.
Alors, il y a deux parcours qui sont vraiment intéressants dans le livre, qui se bâtissent un peu en parallèle dans le roman. Il y a le parcours de Céline, bien évidemment, brillant, médiatique. Puis il y a aussi celui de Gabriella. Est-ce qu'on a là une histoire d'ascension sociale ou d'extraction sociale? Est-ce que votre cœur citoyen pencherait plus pour une Gabriella et celui de l'écrivain plus pour un destin à la Céline?
Gabriella, en fait, c'est ben pour moi, ça servait à montrer un peu un autre point de vue sur une grosse boîte comme celle de Céline. T'sais, donc, Céline, c'est la patronne, mais Gabriella, c'est une jeune employée qui commence, si on veut, sa carrière dans les ateliers CW. Donc, elle me permettait un peu de montrer comment comment certains discours sont là. Donc, évidemment, Céline, elle s'imagine qu'elle travaille en égalité radicale avec tout le monde, qu'elle écoute les idées des autres. Puis, dans un certain sens, c'est pas faux. Mais Gabriella va vite se rendre compte que elle a aussi une part un peu brutale, Céline, parfois. Puis que si on elle a du mal à se faire dire non. Puis si on lui dit non, ben si on essaie de poser des limites, parce que c'est ça la question, c'est que en architecture, entre autres, mais dans d'autres milieux aussi, c'est des milieux où les gens travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'architecture, aujourd'hui encore, ça fonctionne par charrette, la plupart du temps, assez souvent. Les charrettes, c'est des moments où, pendant, je sais pas, là, 4 ou 5 jours, presque jour et nuit, presque 24 heures sur 24, les gens vont travailler pour un dépôt de projet. Donc, mais tu sais, sur le plan humain, c'est vraiment compliqué de faire ça. Si t'as des enfants, si tu veux juste pas te brûler à l'ouvrage, si t'as envie de mettre des limites, toi, puis que le travail ne prenne pas toute ta vie, c'est compliqué de vivre ça. Fait que c'est ça, Gabriella, c'est un peu quelqu'un qui est comme ça, qui veut s'épanouir par le travail, mais pas seulement, qui trouve aussi que c'est important que le travail soit secondaire dans ta vie, mais elle va se confronter aux logiques du milieu, puis notamment à la culture que Céline a, parce qu'elle vient de ce milieu-là, puis elle a été formée par de multiples charrettes. Fait qu'elle, quand elle va essayer de mettre une limite, elle va découvrir que Céline a beaucoup de mal à faire dire non, en fait.
Alors, la célébrité a son envers, hein, puisqu'un article de presse dans le New Yorker va mettre le feu aux poudres, en tout cas dans la vie de Céline. Lors d'une soirée d'anniversaire, justement, une fenêtre va éclater. Soudain, une révolte va éclater. Des visages cagoulés vont envahir la maison et tout saccager. On pourrait se retrouver dans une scène assez jouissive de querelle, sauf que l'issue est plus, je dirais, carnavalesque. Est-ce que c'est un regard un petit peu cynique, justement, sur cette révolte? Ou pire, est-ce que tu t'es assagi depuis querelle?
Non, je pense pas m'être assagi, mais l'histoire est... Le récit est vraiment différent. C'est-à-dire que là, c'est pour moi aussi... C'est-à-dire que Céline, elle va devenir, comme tu dis, il y a une sorte d'explosion par la célébrité et tout, mais l'envers de cette célébrité-là, comme tu l'as bien dit, c'est que elle peut se renverser. Donc, tout ce qui était positif, qui était projeté sur elle, peut devenir négatif du jour au lendemain. Donc, tout ça, ça vient d'une critique qui est faite à un projet qu'elle veut mener à Montréal. Une critique qui est très légitime, là. Moi, je serais plutôt d'accord. Mais je voulais aussi montrer comment Céline veut pas... Elle devient un peu un bouc émissaire. T'sais. Elle ne peut pas, à elle seule, porter le poids du capitalisme. Puis, en même temps, c'est une sorte de logique. Moi, je ne sais pas comment m'en déprendre de cette logique-là, parce que dans une société, quand tu as envie de critiquer certaines structures, certaines logiques d'exploitation, ben c'est très difficile de ne pas passer par le bouc émissaire. Tu ne peux pas dire ben, telle personne représente ce système-là, donc on va critiquer cette personne-là. Puis peut-être un peu aussi oublier le système qui est derrière. T'sais. Donc j'avais envie un peu de parler de cette complexité-là, de cette ambivalence-là, où Céline est tout à fait critiquable, mais où, malgré tout, elle porte pas à elle seule le poids du capitalisme mondial, tu sais, puis de la gentrification. Fait que c'est ça. Puis donc la scène d'intrusion chez elle, pour moi, c'est un peu à l'image de ça. Puis donc, d'ailleurs, la réaction de Céline, ça va être une réaction aussi d'image, à mon sens. C'est-à-dire que elle va comprendre que il y a des gens qui entrent chez elle, elle appelle la police, mais elle va comprendre qu'elle peut pas seulement laisser la police arrêter les manifestants parce que ça fonctionne pas avec l'image qu'elle a, parce qu'elle, elle se voit comme quelqu'un de gauche, probablement comme quelqu'un d'anti-autoritaire, c'est quelqu'un qui est dans les... C'est ça, qui se voit, qui a une perception d'elle-même comme quelqu'un de gauche, donc elle va se mettre à défendre, en fait, les gens qui entrent chez elle, puis elle va vouloir les protéger. Puis à plusieurs reprises dans le livre, elle fait ça, Céline, elle va prendre le parti des gens qui la critiquent, parce que je pense qu'il y a une partie d'elle aussi qui est sensible ou qui est d'accord, même si elle a beaucoup de mal aussi à accepter cette critique-là, mais avec la critique qu'on lui adresse.
Alors, tout à l'heure, je parlais de l'introduction, mais il faudrait aussi parler de la conclusion, du final. Et j'allais dire, quel final, encore une fois, d'une beauté tragique, antique, en forme de renaissance. Si je reste dans le registre de la tragédie, il s'agit quasiment d'une auto-déification. Tu conclus encore le roman en musique, c'était déjà le cas pour Querelle. Ce genre de finale, est-ce que ça te permet aussi de montrer le triomphe, je dirais, de l'imaginaire, le triomphe de la fiction, le triomphe de l'écriture?
Oui, pour moi, ça, c'est important. C'est important que l'écriture ne soit pas juste à un niveau de réalisme au premier degré. Tu sais, j'ai toujours pas envie que les choses soient un peu plus grandes que ça. Tu sais. Donc, ouais, j'essaie de donner une dimension, comme tu le dis, épique ou mythologique ou opératique à certains moments, parce que parfois je trouve que le réalisme est comme une ressource insuffisante, tu sais, pour témoigner de certains affects, de certaines logiques aussi. Donc des fois je trouve que il faut comme pallier le réalisme, il faut l'augmenter. Puis donc moi j'aime beaucoup travailler comme ça dans des moments où par la scène ou par le même des fois le discours intérieur. Il y a des images qui vont apparaître puis qui vont. Donc il y a un moment aussi vers la fin où Céline va voir toutes les Célines à différents âges de leur vie apparaître autour d'elle puis la rejoindre parce qu'elle a comme une sorte de réflexion sur sa vie justement. Puis donc c'est presque comme si les personnages étaient vraiment là avec elle, mais donc pour moi c'est que j'arrivais pas à exprimer autrement qu'elle ressentait à ce moment-là. J'avais besoin de quitter un peu le réalisme justement pour produire une image. Puis voilà, toute fin fonctionne aussi comme ça, là, de manière un peu shakespearienne, j'ai envie de dire.
Voilà, Kevin Lambert s'invite au cœur de la classe dominante montréalaise pour mieux l'observer, pour mieux déconstruire certains mythes aussi. Célébrité, fortune et reconnaissance ne vont pas forcément de pair pour autant. Il faut savoir résister, parfois souffrir. Céline Wachowski l'apprendra à ses dépens, un troisième roman attendu et qui tient toutes ses promesses. Que notre joie demeure, par Kevin Lambert, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Merci Kevin d'être passé. C'est la mission au Crenoir. Où nous mène la dérive des continents? Nous errons tête baissée à la recherche des vœux suspendus aux nuages. Nous écoutons, minutieusement, les menaces qui grincent dans le sable sous nos semelles. Les orbites nous tiennent immobiles dans un monde perpétuellement neuf. Il n'y aura plus nulle part pour nous accueillir. Nous rebâtirons nos vies sur les continents de plastique. Nous grelotterons dans la fonte des glaciers quand le vent aura balayé les traces du dernier caribou. Les icebergs ne décideront plus de l'orientation des naufrages et nous traiterons nos migraines avec l'acupuncture du vent. Ceci est un extrait des Deuils transparents par Virginie Savard, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Toutes les fois que je ne songe pas à la mort, j'ai l'impression de tricher, de tromper quelqu'un en moi. Cette citation d'Émile Cioran, tirée de l'inconvénient d'être né, ouvre ce recueil de poésie. Virginie Savard nous invite à faire l'expérience des deuils fantômes, comme de ceux qui comptent pour de vrai. Une plante meurt, un astre s'éteint quelque part, une fourmi s'égare, des mots qu'on oublie, une catastrophe qui n'arrive pas encore, des rendez-vous manqués, des espèces disparues. Vous arrive-t-il de vous demander si ce pas que je viens de poser sur la pelouse n'éradique pas une vie? En regardant l'existence sur son versant fragile, l'autrice nous invite à revenir sur nos adieux définitifs, comme sur ceux qui nous ont échappé, nos moments manqués, et qui imperceptiblement nous collent encore au corps. Écoutez en vain ce qui meurt un peu plus chaque jour, autour et avec nous, c'est déjà faire œuvre de philosophie et d'éthique. C'est sans doute aussi faire preuve d'humilité et d'écoute envers le cycle du vivant. C'est peut-être là, sous vos yeux, dans cette lecture, notre première leçon de survie, si nous voulons un futur. J'accueille ce soir, à Mission Crenoir, Virginie Savard. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Eric.
Vous êtes né en 1993, vous avez obtenu une maîtrise en études littéraires à l'Université Laval et vous demeurez maintenant à Montréal. Vos poèmes sont notamment parus dans Moebius, Fille Missile, Exit et Estuaire. Votre premier livre, Forme subtile de la fuite, est paru chez Triptyque en 2020. Alors votre recueil s'ouvre sur une citation d'Émile Cioran tirée de L'inconvénient d'être né et une autre de Léane Betasa-Mosaké-Simpson tirée de No Pimé. Grief is saving yourself over and over again, une ligne qui contraste avec le je qui apparaît telle une survivante dès le début du texte, dans par exemple je ne sais pas quoi faire avec les disparitions qui s'empilent. Pourquoi cette prise de conscience des deuils?
Il y a quelque chose en fait qui vient évidemment de mon expérience personnelle, de ma difficulté à accepter tout ce qui finit. Et non seulement justement les vies, mais les tout ce qui est vivant ou non et qui se termine. Donc évidemment, les citations dont on vient de parler d'Émile Cioran et de Léane Betasa-Mosaké-Simpson ont beaucoup, beaucoup résonné en moi au sens où il y a cette présence constante de la mort dans mon esprit. Mais cette présence constante de la mort est en fait un hommage à la vie, en fait, au sens où quand on fait le deuil, on se sauve au sens où on honore ce qu'on a aimé, ce qu'on a vécu et le temps qui a passé, en fait, dans l'intervalle.
Ben c'est peut-être un peu ce qu'on retrouve dans le titre, hein, car ces deuils transparents nous suggèrent une absence, une invisibilité, voire une forme indicible qui nous traverse. Qui sont-ils, ces deuils transparents? Surtout, vous précisez, ces prodigieux sentir tout ce qui meurt.
Oui, y a beaucoup, en fait, des deuils qui se trouvent dans ce livre-là, qui sont des deuils auxquels le monde, en général, n'accorde pas tellement d'importance. Et évidemment, si on est en deuil d'un être cher, on va avoir du temps de congé, on va avoir du temps pour se reprendre. Les gens vont comprendre qu'on devient extrêmement émotif. Mais il n'y a pas que les gens qui meurent. La vie est comme marquée par toutes ces choses qui finissent. Et en mettant... J'ai tendance à avoir de la difficulté avec les échelles, je crois que je l'ai dit dans le livre, mais en mettant côte à côte toutes les échelles du vivant, donc l'insecte, les étoiles qui meurent, les êtres humains qu'on arrête de croiser, et les versions de soi qui arrêtent d'exister, c'est toutes des pertes, c'est toutes des deuils, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement de mots, on n'a pas de processus, de procédure pour les traverser, pour les vivre, pour leur permettre d'exister en fait dans nos existences et de les comprendre et de les partager surtout parce que c'est beaucoup les deuils transparents, c'est des deuils qu'on traverse tous et toutes. Comme chacune des personnes a déjà arrêté de croiser une personne sans savoir que c'était la dernière fois qu'on la croisait. Toutes les personnes ont déjà tué une plante verte, malheureusement. Tout le monde est dans ce monde qui est en train de mourir à cause de la crise écologique. Mais on n'a pas nécessairement d'espace, de rituel pour les vivre ensemble puis les partager, en fait.
Mm-hmm. Alors, ce recueil est constitué de trois grandes parties. Qu'est-ce qui les relie entre elles, ces parties? Ou peut-être n'y a-t-il pas forcément de relation?
Oui, il y a définitivement quelque chose qui les relie. En fait, la première partie, qui est les yeux à la hauteur de l'incertitude, c'est vraiment la partie où je me suis consacrée aux petits deuils qu'on ne sait pas comment nommer. Donc là, les plantes, les insectes, les inconnus, les étoiles, les robots, des choses comme ça. La deuxième partie, c'est les versions alternatives de moi. Et la troisième, c'est le monde en cette période de crise climatique. Ce qui les relie, c'est vraiment le jeu d'échelle, en fait, qui m'apparaît extrêmement important dans mon travail en général, puis qui est de de mettre côte à côte le minuscule et l'immense pour leur donner la même taille dans le deuil, dans la perte et dans la façon dont ces deuils-là vont composer mon identité, vont composer la manière dont j'évolue dans le monde, puis mon rapport au monde, en fait. Ces trois parties-là, en fait, c'est drôle parce qu'elles sont nées avant que je l'écrive. En fait, j'avais le projet de ces trois sections-là avant même de me mettre à écrire des poèmes pour parler de ces deuils-là, justement, qui composent les pertes quotidiennes qui... je le dis dans le premier poème, vous venez de le citer, c'est prodigieux de sentir tout ce qui meurt. En fait, c'est ces trois grands types de deuil que je trouvais vertigineux, en fait, à vivre seule et qui m'ont permis d'articuler les deuils transparents pour transmettre, en fait, cette impression de perte infinie.
Quand vous dites version alternative de moi, de quoi s'agit-il? S'agit-il de vous dans ce que vous pourriez être ou de vous dans ce que vous n'avez jamais été?
C'est un peu des deux, en fait. C'est le moi qui aurait pu exister si j'avais pris d'autres décisions. J'ai déménagé beaucoup, donc qui j'aurais été si j'étais restée à Rimouski, par exemple, où je suis née? Qui j'aurais été si j'avais fait des choix différents, si j'avais pas allé en thérapie, si j'avais pas... chacune des décisions qu'on prend nous change, nous affecte la trajectoire qu'on a dans l'existence. Puis c'est toutes ces versions possibles de nous-mêmes qui pourraient exister, ne serait-ce que si on décidait de déménager, on décidait de changer de travail. C'est immense. Et à l'origine, ça me terrifiait parce que j'avais lu Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, quand j'avais 16 ou 17 ans. Puis, il dit là-dedans que ce qui est terrible avec la vie, c'est que la répétition de la vie, au sens de la pratique de la vie, est toujours la vie elle-même. On ne peut jamais refaire quelque chose qui s'est mal passé. Chaque chose est finale et irréversible. Puis c'est quand même extrêmement angoissant, mais ça met beaucoup de poids sur chaque décision qu'on prend. Mais maintenant, j'ai choisi de le voir un peu d'une manière de c'est rassurant, au sens où peu importe la décision que je prends, il y aurait d'autres possibles, en fait. Mm-hmm. Et c'est un revirement de situation intéressant.
Je vous cite, Sainte-Catherine est une plaie ouverte des colombariums entre les sacs poubelles des collections de haine, mise au chemin le mauvais jour, dans l'angle mort de mes détresses, le beau temps est obscène. Est-ce que ce livre s'est écrit au bout d'une certaine frayeur, au bout d'une certaine déception, d'un dégoût du monde?
Ah non, je crois vraiment pas que c'est une question de dégoût. En fait, c'est vraiment plus une question d'amour, surprenamment. Dans les deuils transparents, je pense qu'en tentant de mettre de l'avant tout ce qui meurt, tout ce qui quitte, tout ce qui fait mal, j'essaie vraiment de les mettre de l'avant, de leur donner de l'importance. Cet extrait que vous m'avez cité est à la fin d'un poème où je marche au tout début du recueil, et je croise justement les affiches d'animaux perdus, les gants oubliés et tout ça. Il y a en fait le vertige de voir en fait tout ce qui tombe, tout ce qui se perd et qui peut paraître trivial. Et les collections de haine, je dis le mauvais jour, c'est vraiment plutôt de voir qu'est-ce qu'on expose en fait de ces pertes-là. Puis combien de temps il reste là à être vu par tout le monde avant qu'elle parte pour de bon, là dans ce cas-ci, vers le dépotoir, mais pas nécessairement dans le point de vue métaphorique. Puis il y a quand même aussi, dans le beau temps, il y a quelque chose qui vient de ce vertige de sentir tout ce qui manque, justement, comme on disait tout à l'heure, puis de pas voir ce vertige-là être partagé, au sens où je suis pas mal convaincue que c'est pas tout le monde qui s'émeut d'une mitaine échappée ou de fleurs qui ont tombé ou de choses comme ça. Mais il y a en fait cette obscénité de l'hypersensibilité face parfois à l'indifférence.
Mmh. Et y a-t-il un sentiment de culpabilité qui traverse le livre? Je vous cite, « J'ai tué à trop vouloir faire vivre ma taille, un excès, une hyperbole, mon existence, une hécatombe accidentelle. » Êtes-vous préoccupé par la mort provoquée ou qui peut être évitée ou encore ces événements viennent-ils suffisamment déséquilibrer votre propre univers qu'ils empêchent de vivre d'autres émotions?
Oui, ben tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mon expérience au monde qui se questionne sur l'impact que la place que je suis dans le monde sur le reste de ce qui vit. Peu importe à quel point j'aime les plantes, si j'ai pas le pouce vert, justement mon orchidée que j'ai noyée ou les insectes que j'écrase juste en marchant dans le parc, c'est comme aimer être dans la nature fait en sorte aussi qu'on contribue à sa destruction involontaire. C'est sûr que c'est pas une psychanalyse là, mais c'est sûr que la place que j'occupe versus l'impact que j'ai, les morts que je crée, sont quand même très anxiogènes dans ma vie. J'essaie vraiment de prendre soin des animaux, des plantes, des insectes, etc. Puis ce poème-là parle vraiment de l'impact qu'on a malgré ce qu'on ne veut pas faire, ne serait-ce que par la place que l'être humain occupe dans le monde, encore une fois par rapport à l'échelle qu'on a, la place qu'on prend. Une amie me disait récemment qu'elle pleurait en pensant au gazon qui ne peut pas pousser en dessous de l'asphalte. Il y a quand même de ça, là, de l'obscénité de la place que l'être humain prend dans le monde.
Il y a cette réflexion en vous. J'aimerais être végétal pour que le soleil me trouve et renaître. Est-ce aussi une forme de désobéissance, adopter une forme, disons, noble, une forme qui n'obéit qu'à une règle simple, celui du cycle de la vie?
Oui, il y a clairement la volonté d'être simplement sans rien d'autre, en fait. Dans les deux transparents, justement, je dis qu'il est positif, qu'il est mieux, mais c'est aussi justement de prendre en compte que le deuil, la mort, fait partie, en fait, de ce cycle-là et que c'est correct, en fait. Puis il y a quelque chose d'émouvant, justement, dans le fait qu'une plante qui meurt à l'automne va renaître d'une certaine manière au printemps, soit par ses rejets ou par parce qu'elle renaît elle-même. Il y a quelque chose d'extrêmement beau et que je trouve très inspirant dans la résilience des plantes, en fait.
Vous écrivez « La route, comme une couture, ramasse le paysage en morceaux pour mieux faire un nœud au bout de l'avenue pour que la couture ne lâche pas. » Qu'est-ce que vous trouvez au bout de ces paysages, au bout de ces routes? Quel sentiment vous habite? Révolte? Désespoir?
Je dirais pas que c'est un désespoir. Il y a quelque chose, en fait, quand on traverse, justement, ça c'est un poème sur un village, en fait, où il y a de moins en moins, en fait, tous les jeunes ont déserté et ils savent pas tellement comment le village va survivre. C'est pour ça que j'ai repris la phrase justement très très touchante des Hey Babies qui demandent qui va sonner les cloches de l'église. C'est pas tant un désespoir, c'est une question de quel monde va rester, en fait, avec chacun des choix qu'on fait, lequel on veut qui continue. Et comment réinventer la communauté, en fait, si l'exode urbain fait en sorte que il y a des villages qui sont vides, en fait, pas vides, mais qui n'arrivent plus à être autosuffisants avec les gens qui existent dedans. C'est pas tant un désespoir qu'un questionnement, qu'un désir de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir après, en étant conscient qu'il y a quelque chose de précieux, en fait, dans le village, la petite communauté, la proximité les uns des autres, en fait.
Mmh. Il y a une phrase, une suggestion toute bête à un moment donné dans un poème qui m'a allumé. Suis-je une si bonne personne? C'est quoi être une bonne personne?
Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas que j'ai la réponse à cette question. Cette question-là émerge, si je me souviens bien, quand une mouche se dépose sur moi et y reste. Je pense qu'on revient en fait à la question où on parlait de ma taille comme hyperbole. Il y a quelque chose de en tout cas dans ce poème-là, d'être une bonne personne, qui est la personne qui arrive à accueillir en fait toutes ces formes de vie-là sans les rejeter, au sens où comme quand on est dehors, ça arrive vraiment souvent que des gens quand même essayent d'éloigner les insectes. C'est comme de cohabiter dans l'espace avec toutes ces formes de vie-là, les accueillir, leur nuire le moins possible. Moi, c'est quelque chose que je trouve important, en fait. Là. C'est drôle parce qu'au moment où on se parle, il y a une drosophile qui vient de se poser sur ma joue. c'est un peu émouvant. Oui, il y a de ça. Est-ce que je suis dans un endroit accueillant pour le vivant? Qui, pour moi, est la définition la plus large que je pourrais donner d'une bonne personne.
Mmh. Vous écrivez « J'habite avec une tristesse que je n'ai pas pris la peine de nommer. Les poèmes sont des choses qui m'arrivent quand il n'y a plus qu'à dire que ce qui ne se dit pas. » Comment la poésie, parmi tous les langages, s'est-il imposée à vous? Est-ce pour mieux habiter ce silence peuplé de tristesse pour ouvrir votre univers?
Oui, j'écrivais quand j'étais très jeune, puis j'ai arrêté quand l'anxiété et la dépression sont venues un peu me couper la gorge, au sens où j'arrivais pas à être suffisamment en moi-même pour l'écrire. Puis je suis revenue à la poésie étrangement quand j'ai commencé à avoir une psychologue. Pour gérer ces choses-là, parce qu'il y a quelque chose de très... Ben évidemment, c'est pas le cas de tous les poètes, mais c'est sûr que moi, dans ma poésie, il y a quelque chose de très intime, de très presque thérapeutique, là, au sens où je traverse un peu mon corps et ce qu'il vit par l'anxiété, la dépression, les deuils, les pertes. Je pense qu'il y a de ça, oui, dans le langage poétique qui est venu me chercher plus que la prose ou quelconque autre forme d'art aussi. Il y a aussi dans la poésie quelque chose qui est extrêmement beau, qui est que l'image n'est pas obligée d'être dépliable exactement, au sens où on n'est pas obligé de dire « Ah, cette couleur-là a été mise dans l'image pour que telle chose soit dite, soit comprise, soit etc. » Il y a quelque chose du flou qui va mieux avec l'expérience du monde que j'ai. Je trouve le monde et l'existence humaine quelque chose de très, très étrange auquel j'arrive pas tout à fait toujours à nommer. Je pense que la poésie nous permet, en fait, de nommer l'entre-deux, de nommer l'inexactitude, puis de partager en fait un sentiment qui est encore du flou dedans, mais qui est quand même achevé.
Dans une troisième partie intitulée « Ciel échymose », vous proposez deux citations, l'une de Laurie Jean-Louis, « Je suis analphabète, je ne sais pas lire le ciel », et l'autre de Sylvia Plath, « Let me sit in the flower pot, the spiders won't notice, my heart is a stopped geranium ». Alors là, vous êtes cinglante dans cette partie, vous témoignez du règne de l'individualisme. Quand vous dites le poids des caprices qui fabriquent nos propres dépotoirs, sommes-nous devenus amnésiques, incapables de penser un imaginaire autre que celui qui flatte l'abondance et le confort, à votre avis?
Je crois pas que c'est une question de manque d'imaginaire entre, mais je pense que c'est important de nommer l'imaginaire qui est relié, en fait, à cette destruction-là. Il faut une poésie qui est capable de nommer les continents de plastique, le styrofoam sur les plages. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant, triste, dans ce qui se passe, en fait, avec les non seulement les changements climatiques, mais évidemment tout le reste aussi, là, comme l'accumulation des déchets, les séismes, les tsunamis. C'est pas une question de, on n'arrive pas à imaginer autre chose, c'est une question de nommer ça pour vouloir, en fait, le changer. Il y a Jennifer W. Atkinson, qui est une universitaire américaine, qui a fait le podcast qui s'appelle Facing It sur l'éco-anxiété. Elle est spécialisée en éco-anxiété. Et dedans, elle dit que les artistes ont quelque chose qui manque aux scientifiques, qui est de donner envie aux gens de changer les choses, au sens où les scientifiques vont donner des données, mais c'est sûr de créer des actions à partir d'informations rationnelles. Il y a quelque chose, en fait, qui doit venir du cœur, de la rage, de l'émotion, en fait, pour vraiment générer un changement. Puis je trouvais important de nommer aussi ces peurs-là, ces terreurs-là qui existent, ces choses terribles. C'est pas un refus de l'imaginaire, c'est en fait un choix de le mettre de l'avant, puis de composer avec ce qui est actuellement notre réalité et ce qui va le demeurer pour encore plusieurs années, là, si on suit aux politiques actuellement en place.
Ouais. On lit « Le futur pousse entre les tournesols et les tomates ». Vous écrivez « Sur un mur de briques, près de chez moi, il est écrit « No future ». Vous y croyez encore à cette expression ? Y a-t-il un avenir punk communautaire ? Existe-t-il au « nous » cet avenir, à votre avis ?
Ben moi, j'aime y croire. Là, évidemment, ces poèmes-là viennent de mon expérience personnelle de créer des collectifs, d'aller jardiner, d'aller faire des bombes de semences, en fait, pour peupler les terrains vagues. Il y a quelque chose du changement qui est possible et qui vient, en fait, de justement l'émotion que j'ai nommée dans la question précédente, que je trouve important de nommer, au sens où, oui, il y a le deuil écologique, il y a la crise, il y a tout ça, mais il y a des communautés qui travaillent ensemble, grassroots, proches justement des tournesols et des tomates, des communes, tout ça, à un nouveau mode de vie, un mode de vie qui me parle beaucoup plus que la vie en banlieue avec deux voitures, là, puis qui nous permet d'espérer un genre de monde d'après, hors du capitalisme, c'est ambitieux, mais c'est vraiment tentant.
Il y a des deuils formateurs dans ce recueil pour une prise de conscience d'un monde en souffrance dans lequel il est parfois embarrassant d'être en vie quand tout agonise. Il est salutaire de faire l'expérience de ce voyage dans la fragilité de ce qui vit, dans ce qui laisse des traces de doigts sur nos cœurs, dans ce splendide recueil « Les deuils transparents » par Virginie Savard, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Merci beaucoup Virginie d'être passée à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 36, le chapitre 392. J'ai reçu en première partie d'émission Kevin Lambert pour nous présenter Que notre joie demeure, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Et en deuxième partie d'émission, Virginie Savard est venue nous présenter Les deuils transparents, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Et voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Fedeu, acho que foi. O negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele lavava, tava tudo. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não, não. Poderia servir de que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo.
Agora um aranha,